dans le cas très particulier de maintenant, nous avons le plaisir d'avoir Sandrine Malotto, qui est conservateur générale, c'est ça le titre, et qui s'occupe de la négociation Couperin, et fait partie, je crois que vous êtes trois négociateurs principaux, pour la revue Elsevier, et elle va vous parler des détails de la négociation, sachant que, si je ne me trompe pas, le contrat n'est toujours pas signé.
Pas loin,
mais ça fait quand même 6 mois que ça dure, donc ça veut dire qu'en fait, on parle du contrat pour un contrat pour les abonnements qui commence au 1er janvier 2014. Donc il y a quand même un petit délai. Alors, dans le cadre de la conférence maintenant, c'est enregistré, mais par contre, comme vous comprenez très bien, il y a des négociations en cours, ça ne sera pas mis sur le site web, voilà, parce que c'est lié à la... Il ne faut justement pas embarrasser les négociateurs, vu que ce n'est pas conclu. En tout cas, Sandrine Malotto, je vous remercie beaucoup d'être venue. Elle arrive de Toulouse et elle va vous parler de la négociation en consortium Couperin. Merci.
Là, on m'entend avec ce micro. Ah, d'accord. Vous m'entendez bien parce que j'ai toujours des problèmes de micro. Vous m'entendez bien là ?
Oui.
Bon. Donc, je dirige le département des négociations documentaires au Couperin. Donc, en fait, je vais vous donner le contexte sur...
Il faut peut-être le mettre plus près. Ah non, il est peut-être...
Il est trop haut ?
Oui, trop haut.
Il faut le mettre en fait...
Là, c'est bon ? De contexte général, et vous expliquer aussi ce que c'est que le consortium Couperin, comment il fonctionne, comment on organise nos négociations, et puis quelques résultats des négociations 2013. Et après, je vais faire un petit focus sur la négociation Elsevier. J'ai rassemblé l'avis d'investissement, donc ça c'est une présentation, ce sont des informations que j'ai récupérées d'une présentation faite par BNP Paribas, je crois. Rassemble toutes les informations pour pouvoir conseiller les investisseurs dans quel secteur investir, et scientifique est tout à fait enthousiaste. Donc vous voyez ce que c'est que l'édition scientifique business. Vraiment... Notamment du fait du peu de réaction des usagers, donc ça c'est bien ce qui est écrit et ce qui est dit, usagers peu réactifs, donc pas de désabonnement, donc permanente, les usagers non seulement en même temps d'excellents gestionnaires qui savent à entreprise en visant principalement les... et en diminuant les coûts de production, notamment en délocalisant un certain nombre de... Voilà. Donc je pense que cette diapositive, en tant que chercheur et producteur de cette information, vous a intéressé, et je pense que vous savez Jean l'année prochaine. Voilà. Donc, je n'ai pas les chiffres consolidés pour 2013, donc je vous donne les chiffres 2012, parce que ceux-là, je les ai... vérifier, voilà. Donc pour Elsevier, vous voyez, l'action a subi une augmentation de 36,8% en 2012. Mais les sociétés savantes aussi ont des revenus importants puisqu'elles arrivent à mettre de l'argent de côté. Et cet argent mis de côté, notamment des membres de ces sociétés savantes, à quoi sert toute cette masse d'argent ? Et qui rapporte aussi aux sociétés. Donc vous voyez, concerne tout le monde. Et il n'y a pas que les éditeurs commerciaux qui soient de bons gestionnaires. Aussi sur le coût de l'information scientifique, ça c'est un chiffre qui vient des collègues de l'association de recherche aux États-Unis, donc qui montre une augmentation de 402% du coût des revues scientifiques entre 1986 et 2011. La courbe s'arrête en 2011, mais j'ai trouvé la suite. Donc ça, c'est un autre tableau que j'ai pris d'une revue dont j'ai oublié le nom, j'ai ça quelque part. Donc ça, c'est une évaluation fine vue qui sont indexées dans le Web of Science, dans le journal, oui, dans le Web of Science. Et intéressant, c'est ce qui est en rouge en bas que vous ne voyez pas, c'est le pourcentage moyen de changement, hein, le taux d'augmentation toute due. 6% en 2012, augmentation de 6% en 2013. Donc vous voyez la tendance des coûts des revues. Ce qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Autre élément intéressant, c'est que les acteurs commerciaux, notamment, ne se contentent pas, mais aussi certaines sociétés savantes, ne se contentent pas de rechercher le produit de leur travail. C'est surtout auprès du secteur privé qu'ils en tirent le profit le plus important. Donc là, on a un tableau où vous voyez plutôt des éditeurs commerciaux, donc notamment Reed Elsevier. Vous voyez que 67% du revenu de Reed Elsevier vient des entreprises. Voilà. Notamment aussi notre société savante comme I3E tire des bénéfices colossaux de la revente de cette information produite par vous à des entreprises en électronique, à Airbus, EADS, etc. Donc, ce que vous donnez aux publishers, beaucoup, a une très grosse valeur marchande. Alors, quel est le modèle économique qui est en train de se mettre en place aujourd'hui de la part des gros éditeurs commerciaux, des publishers, économiques? C'est-à-dire que la tendance n'est plus un abonnement à des bases de données. Donc on nous explique que ce dont ont besoin les chercheurs, ça n'est pas avoir accès à une collection de revues, mais c'est d'avoir accès à un flux d'informations, donc en streaming. Et la propriété de l'information n'est plus un enjeu pour les chercheurs. C'est une citation d'Elsevier. Ce qui compte, c'est l'accès permanent. Voilà. Si vraiment on est conservateur, on peut racheter les archives. Donc avant, quand on avait un abonnement papier, on avait les archives, compris dans le coût de l'abonnement. Maintenant, on ne les a plus. Si vraiment on y tient, on peut les racheter. Alors par exemple, dans le cas d'Elsevier, avant de racheter les archives de l'année, donc je m'abonne à un bouquet de revues. Si j'arrête mon abonnement, j'ai plus d'abonnement, c'est ça que ça veut dire. Si je veux conserver l'accès à mon année d'abonnement, je dois la racheter. 15% du prix de l'abonnement. La citation rend possible un accès des abonnements. C'est ce qu'on appelle l'accès post-cancellation. Je m'abonne pendant 10 ans à un bouquet de revues. Au bout de 10 ans, je n'ai plus les moyens de maintenir l'abonnement. Je conserve quand même un accès aux années d'abonnement. Certains éditeurs aussi le rachat des archives, mais uniquement pour ce qu'ils appellent archives historiques, c'est-à-dire les archives antérieures à 1940. Souvent, il est impossible de racheter les archives. Dans ces cas, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces données, vous ne les récupérez pas. En principe, elles restent accessibles, elles restent stockées chez l'éditeur, chez le publisher. Certains font partie de dispositifs de conservation pérenne, comme par exemple le dispositif Portico, qui va abriter des copies de sécurité. Des bibliothèques peuvent abriter des copies de sécurité, mais ces copies ne sont accessibles que sous conditions drastiques, et particulièrement en cas de défaillance de l'éditeur, du publisher. Voilà, donc vous voyez que la conservation des archives, les éditeurs, puisqu'ils ne veulent pas nous les donner. Donc, finalement, pour conclure, aujourd'hui, l'abonnement ne donne plus qu'un droit d'accès temporaire sur l'information. On n'a plus le droit de propriété que nous. Si on se désabonne, on perd, on avait accès. Vous voyez ? Et dans la plupart des cas, c'est arrivé sur les serveurs des éditeurs, certains étant entreprises privées et quasiment dans tous les cas situées à l'étranger. L'abonnement maintenant, c'est le droit de lire pendant un an. Ceux qui se retrouvent en position de monopole, mais en plus maintenant il a le monopole de l'archivage, ce qui n'était pas le cas avant, puisque l'archivage était assuré par un réseau de bibliothèques publiques, certaines nationales, d'autres universitaires. Maintenant c'est l'éditeur qui se retrouve au centre de l'archivage. Et la scientifique, qui est financée, la constitution de ce patrimoine est financée sur fonds publics, mais sa conservation est assurée aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, par des éditeurs commerciaux, localisés à l'étranger. Et troisième point, cette augmentation continue des coûts. On pense toujours que ce sont les bibliothèques qui payent. les bibliothèques université ou d'une école. Hein, donc le budget qui va dans les bibliothèques, c'est aux institutions qui va consacrer une partie de plus en plus importante à l'achat de documentation. Donc ce n'est pas la bibliothèque qui paye, c'est l'institution, donc c'est vous, c'est les chercheurs. Et si cette part augmente, à budget constant, ben, ce sont les recherches qui diminuent. Voilà. Donc il faut être conscient aussi que l'augmentation des coûts, c'est une menace, et notamment pour la recherche. Maintenant, une présentation, texte général, une présentation rapide de couperin, hein, pour vous expliquer ensuite comment nous nous négocions les tarifs pour pouvoir accéder à l'information scientifique. Donc couperin, c'est un consortium d'établissements. Ce sont bien les institutions qui en sont membres. Donc créé en 1999. C'est un point très important parce qu'à l'étranger, il existe. Nous sommes vraiment un consortium d'établissements. Donc il compte aujourd'hui 242 membres de toute nature, universités, des bibliothèques de musées. Et nous gérons une centaine de négociations par an. Donc notre mission, c'est de négocier les tarifs, de négocier des conditions de service pour nos membres, à la demande des contraintes financières de nos membres. Mais on n'achète rien. C'est une différence avec d'autres consortia. Le GISC en Angleterre achète une partie, pas tout, mais il peut acheter aussi. Donc l'organisation, je vais être assez rapide, donc il y a l'administration hein, qui est composée de... Et l'administration est élue, c'est un président ou un ancien président d'université. Et à côté de ce conseil d'administration, il y a le bureau professionnel qui est composé, lui, de professionnels. Nous sommes tous élus pour 3 ans. Par un conservateur, bon, un professionnel qui se trouve en ce moment être un conservateur, ça peut être un documentaliste, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est un professionnel de l'information scientifique, ça c'est important. Donc les membres du bureau professionnel sont élus pour 3 ans, ils peuvent faire 2 mandats maximum. Donc ce qui est important, l'esprit, c'est que tous les établissements s'impliquent dans la gestion du consortia et qu'il y ait des changements. Ça, ce sont des points importants. Donc après, il y a 2 départements, dont je vais vous parler, et le département services et prospectives. Chaque département est dirigé aussi par un professionnel membre du bureau professionnel, donc élu pour 3 ans, et chaque département est aussi doté de 2 agents permanents. Comment organisons-nous les négociations ? Donc, elles sont gérées par le département. Vous, c'est pas trop petit ? Oui. Alors, donc, le travail est chargé d'évaluer les tendances budgétaires. En fait, on va d'abord évaluer les contraintes des établissements. Les contraintes et les... Nous sommes nous-mêmes tous des bibliothécaires. Travaillons dans un établissement, puisqu'on fait ça en plus. Donc, nous sommes vraiment une émanation des établissements. C'est ça qui est important. Donc, on commence d'abord par évaluer les tendances budgétaires. Je pilote la rédaction de la lettre de cadrage qui va fixer les objectifs de négociation. Et c'est une rédaction collective qui implique l'ensemble des négociateurs. Former les négociateurs. De la coopération internationale, c'est un point fondamental et qui prend beaucoup de temps. Échanges internationaux, consortia, nous savons à peu près tout sur tout. J'ai des tableaux avec les tarifs payés pour sources par les Anglais, les Allemands, les différents consortia régionaux allemands, les Espagnols, pareil, consortia régionaux, etc. Donc de manière à pouvoir mieux cadrer nos propres négociations. La communication extérieure quand il le faut, de temps en temps, rédiger un communiqué de presse, faire un petit peu d'agitation avec des journalistes. Et certaines des négociations sont bloquées. Ensuite, il y a 6 pôles de négociation, qui ont chacun une discipline, et qui sont coordonnés par un chef. Tous les chefs de pôle sont des professionnels bénévoles, ils ne sont pas obligatoirement élus, ils sont bénévoles. Dans des négociations, la validation des offres avant la diffusion. Ça, c'est un point très important que les négociateurs ne diffusent pas une offre comme ça, il faut qu'elle soit validée. Et ensuite, peut-être on n'est pas très loin de 68 négociateurs qui sont tous des professionnels de l'information scientifique, qui sont tous en poste dans des établissements de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Donc, c'est un point extrêmement important, négociateurs professionnels, payés pour être négociateurs, parce qu'il est extrêmement important que les négociations soient menées par des professionnels. Nous sommes une émanation des établissements, donc des professionnels qui soient vraiment au fait d'abord des contraintes budgétaires des établissements, de la vie quotidienne dans un établissement, et des pratiques et des besoins des chercheurs. Et effectivement, quand on compare souvent d'ailleurs les résultats de Couperin avec où il y a des négociateurs professionnels, dure souvent plus longtemps, mais on va plus loin au niveau tarifaire. Fusion de manière à assurer la consultation régulière avec l'ensemble de nos membres. Donc c'est une organisation qui était originale au départ dans le paysage des consortias, qui donc implique fortement les établissements et qui commence à faire école puisque d'autres consortias en Turquie, au Japon, ont choisi d'avoir le même type d'organisation que Couperin. Hop. Alors, le processus est fait il y a 2 ans. Donc, il commence en année N-1. Donc, on négocie en année N. Donc, je négocie en 2013 les tarifs des abonnements pour 2014. Hein. Donc, d'abord, en année N-1, une enquête au mois d'octobre-novembre, au budget primitif, on lance une enquête auprès de tous nos membres et on va ensuite compiler les données. Les résultats de lettres de cadrage, en tout cas pour l'instant c'est comme ça que ça marche, dans la mesure où chaque année nous avons des diminutions de budget, nous prenons ces informations. Donc on s'est posé la question, mais quand les budgets vont ouverts, qu'est-ce qu'on va mettre dans la lettre de cadrage? On ne va peut-être pas mettre, vous pouvez aller jusqu'à plus 10%. Bon, pour l'instant, on ne se pose pas de problème. Vu les hein, on a des dans cette lettre de cadrage, dans cette lettre de cadrage, de considérer comme des partenaires des prestataires de services pour les chercheurs, donc de comprendre les contraintes budgétaires des établissements et dont le souci principal serait plutôt d'abord aux chercheurs l'accès à l'information dont ils ont besoin. Plutôt, on part sur ce postulat. On n'est pas toujours parfois déçu, mais on préfère partir sur ce postulat vis-à-vis des éditeurs, essayer de leur expliquer la situation de manière à pouvoir construire une proposition tarifaire qui tienne compte de nos contraintes. Et l'objectif de la lettre de cadrage, c'est effectivement d'expliquer la situation et nos attentes et aussi de fournir une liste d'arguments pour les négociateurs. Donc on rédige la lettre de cadrage au mois de novembre et ensuite, novembre-décembre, on a une réunion des négociateurs où on va finaliser l'alignement et la négociation. Ensuite, dans l'année N, on lance les négociations officiellement en début d'année, janvier-février. Donc en principe, la procédure doit être une enquête d'intérêt auprès des établissements. Souhaitez-vous vous abonner, vous réabonner? Selon quelle matière, hein, c'est une question qui peut être posée aussi, jusqu'où pour... Et on envoie en même temps la lettre de cadrage au publisher, l'objectif étant, dès le démarrage de la négociation, de bien cadrer la situation avec l'éditeur, hein, en s'appuyant sur cette lettre de cadrage. L'objectif, c'est qu'un accord soit conclu à l'été, mais c'est un objectif qui est quasiment intenable. C'est facile quand on accepte 7% d'augmentation. Si on décide 2%, c'est utopique, même au mois d'août. Par des réunions régulières du département, avec les chefs de pôle, et négociations qui coincent. Dans certains cas, on peut envisager le rejet. S'il y a rejet d'une négociation, on va consulter les membres. Hein, ce sont eux qui ont la décision finale en main. Donc, on explique jusqu'où nous sommes à le résultat. Souhaitez-vous que nous valions la rejetions? Donc, dans certains cas, les membres disent vous rejetez. Dans certains cas, ils disent continuez à négocier. Dans d'autres, ils disent écoutez, nous, ça nous va, valider. Mais c'est effectivement, c'est l'avis des membres qui va l'emporter à la fin. Et en fin de négociation, on demande parfois de manière très répétée la négociation, hein, rédigée par le négociateur de manière à bien mesurer les apports de la négociation et pouvoir simplement expliquer aussi notre travail à nos membres. Donc je vous montrerai en ça. Hein. Donc la coopération internationale est tout depuis 2 ans. Donc comme je vous le dis, moi j'essaie, pas sur toutes les négociations, mais sur un certain nombre de négociations délicates, j'essaie d'échanger de manière constante avec mes collègues, donc sur I3E, APS, IT of Chemistry par exemple, Elsevier ou Wiley Springer. On échange de manière... on intervient systématiquement lors des rencontres internationales et on compare nos résultats et nos tarifs. Ça, c'est un point très important. Tout est confidentiel. Les chercheurs croient qu'on ne s'échange rien. En fait, on est...
Oui, mais voilà. Vous ne pouvez pas nous le dire à nous.
Alors, j'y reviendrai. Non, je ne peux pas vous dire les tarifs en Bretagne qui peut prendre la responsabilité. Moi, je ne peux pas vous
mais
dire.
Mais même pas les tarifs français.
Bien sûr que si, vous êtes membre de Couperin.
Oui, mais bon, d'accord. on en reparle.
Nous avons le droit à nos membres de donner, d'expliquer quels sont nos tarifs et les conditions, bien sûr, bien entendu. Les clauses confidentialité, elles sont à l'extérieur.
Je ne peux pas voir le contrat, je ne peux pas savoir exactement.
Bien sûr. Mais
ça, on en reparle.
Vous êtes membre de Couperin, pas de problème.
On n'a pas le droit de diffuser.
Pas le droit de diffuser. Moi, je ne suis pas membre
déjà,
de Couperin.
Si
le chercheur, il est. Bon, Couperin, on l'a découvert. Moi, oui. Je l'ai découvert uniquement quand j'ai commencé à m'intéresser.
Si tous les chercheurs de toutes les des 242 établissements membres de Couperin ont accès aux informations. Bon, je ne vois pas qui pourrait être intéressé en plus. Parce que
oui, mais c'est quasiment sur une base individuelle. C'est ça que vous nous dites. Vu que je n'aurais pas le droit de le diffuser, vous me le dites à moi, je le mets sur mon site web,
vous
ne serez pas d'accord.
Ah non.
Le chercheur doit venir vous trouver personnellement pour vous demander. Ce n'est pas très pratique.
Alors, il y a diffusé, par exemple, l'ABES le fait. Hein, certains contrats sont... la plupart des clauses sont sur le site web en libre accès. Après, les clauses confidentielles, qui sont en nombre très très limité, peuvent être demandées, effectivement, diffusées à la demande.
Vous pourriez nous dire en quoi sont les clauses confidentielles?
Ça dépend des contrats. Dans certains contrats, il n'y en a qu'une. C'est le prix.
Voilà. Oui, justement. On ne peut pas savoir à la fois le prix et le contenu. Pouvez savoir le contenu, pas le prix. Vous pouvez savoir le prix.
Ah le contenu, non, si, ça c'est...
Voilà. C'est public, ouais. C'est ce qu'on télécharge. Voilà. Mais en général, c'est très dur de savoir le prix. Quel prix pour quel contenu?
Alors, on y reviendra après, parce que sinon je voulais en parler pour Elsevier. Alors, les objectifs de 2013... J'ai perdu le micro? Non, il est toujours là. Vous m'entendez? J'ai l'impression que ça ne résonne plus. Bon. Son premier objectif, contenir au maximum. Si on peut obtenir des baisses, c'est parfait. Notre objectif, c'est de contenir l'augmentation. C'est ce que je dis parfois aux chercheurs. Notre travail, souvent, c'est de faire diminuer l'augmentation. Ou de faire en sorte que l'augmentation n'augmente pas.
L'inversion de la courbe.
Et le deuxième, obtenir davantage, et notamment la propriété des contenus souscrits. Pour nous, c'est un point extrêmement important, justement, pour lutter contre ce monopole. Et si on archive. Ensuite, on peut avoir des arguments supplémentaires pour négocier, parce que quand on négocie un abonnement qui inclut l'antérieur 15, parce qu'on ne l'a pas, et quand on négocie un abonnement qui ne concerne qu'une année courante, et que nous, on est propriétaire de toutes les années antérieures, est-ce qu'on doit payer le même prix? Donc, le fait d'avoir la propriété, c'est d'une part d'assurer une politique d'archivage, mais aussi peut-être plus tard de nous donner des marges de négociation. Le résultat de l'enquête sur les budgets des établissements montre une baisse moyenne des budgets documentaires des institutions d'enseignement supérieur et de recherche en France, membres de Couperin, de 9% en 2013 et de 5% en 2014, ce qui fait moins 14% en 2 ans. Bon. Les résultats, on a quand même une situation qui évolue pas trop. Donc dans ce tableau, j'ai compilé les propositions validées, les offres validées. J'ai, dans la ligne du haut, vous avez celles qui ont une augmentation, qui inclut une augmentation de 4% et plus. Et dans la deuxième ligne, ce sont les propositions soit sans augmentation, maintien du tarif, ou une augmentation inférieure à 2%. Présenté 25% en 2011, alors que les augmentations supérieures à 4%, c'était 59% des propositions. Alors on est à 13%. Et 69% de propositions qui ont un tarif, une inflation zéro, jusqu'à inférieure à 2%. C'est que dans les 60, vous avez des gros éditeurs commerciaux. Alors que les années précédentes, les gros éditeurs commerciaux, ils étaient en première ligne. Augmentation supérieure à 4%. Donc ça change. Ça change quand même, ça a un impact sur les budgets. Donc ça, c'est un progrès dont nous sommes particulièrement fiers, même si nous, ce que nous aimerions bien, c'est avoir une ligne en augmentation avec proposition en diminution. Bon. Alors, 35% des offres, cette année, proposent une inflation nulle, voire un tarif en baisse. Donc je ne peux pas le traduire en coût, j'aimerais bien, mais j'ai essayé, mais c'est risqué sur des données, donc je préfère pas le faire. Donc deux gros éditeurs commerciaux, Wiley et Elsevier, proposent une inflation nulle. Et cette année, les plus grosses augmentations en fait, sont le fait des sociétés savantes. Alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Autre constat, les propositions. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fait un calendrier plus serré, qu'on voudrait valider le maximum à l'été, on dirait que au contraire, eux ont décidé qu'ils fourniraient leurs tarifs uniquement en septembre. Donc les propositions arrivent de plus en plus tard, les négociations sont de plus en plus longues, je suis de plus en plus souvent obligée de prendre le relais en fin d'année pour essayer de débloquer ou de rejeter, ça dépend, un certain nombre de propositions qui sont conflictuelles parce qu'on a des taux d'augmentation supérieurs à 8%, 10%. On ne peut pas diffuser ça auprès de nos membres puisque ça ne correspond pas à leur attente. Autre constat, c'est souvent le recours à un contrat pluriannuel de débloquer des situations. On n'est pas les seuls à le constater. Positif, alors là, en revanche, on est les seuls dans le monde. La propre livraison des données concerne cette année 4 contrats. Les 3 gros commerciaux, une société savante. Bon, ça, c'est une particularité de la France. Donc là-dessus, on intéresse beaucoup nos collègues parce que lorsqu'ils négocient la propriété des données, alors que nous, c'est vraiment, nous avons la propriété des données, on nous les livre et nous les chargeons nous-mêmes sur nos serveurs et nous-mêmes les accès. On a eu quelques échecs, des sociétés savantes, le JAMA, Journal of the American Medical Association, qui restait bloqué. Ça ne représente pas des gros montants, ça ne représente pas beaucoup d'institutions, mais toutes les institutions nous ont dit non, on ne valide pas, par principe. En fait, finalement, à part Spring, ce ne sont que des sociétés savantes. Petit point, alors je suis désolée, j'ai pris le tableau anglais, je n'ai pas retraduit. On demande aux collègues de nous faire une petite... Quel était le taux d'augmentation aux propositions initiales et le taux de variation, parce que ça peut être une diminution, en proposition finale. Donc vous voyez par exemple pour la PS, on n'était pas pire, on avait 12%, on est passé à 7,5%, mais en revanche on a réussi à éviter le pire pour les années suivantes, 2015 et 2014, en passant à 4%. Pour la Royal Society of Chemistry, là aussi on partait de très haut. En revanche on a réussi à avoir un taux d'augmentation qui reste élevé, mais qui a été validé par nos collègues, c'est comme ça. En revanche, on a la propriété sur les données et la livraison des données. Ça, c'est un point important. C'est la première société savante. Pour Nature, on a une diminution de coûts maintenue à celui de l'année précédente. Pareil pour Wiley. Et deux sociétés savantes, le New England Journal of Medicine. Donc, on avait rejeté la proposition l'année dernière. Parce qu'on avait une proposition finale à 12,3% après négociation, donc elle avait été rejetée. Et cette année, ils sont partis d'un peu plus haut, mais on avait Et pareil pour Oxford, où on avait une proposition insoutenable l'année dernière, rejetée, et cette année, on a validé à 2%. Donc parfois, le rejet, voire un impact pour l'année suivante.
Je voudrais faire juste une toute petite précision. Il nous manque un tolu parce que vous avez très bien vu la page, mais ces pourcentages n'ont strictement rien à voir. L'augmentation, on part sur des bases qui n'ont rien à voir.
Voilà.
Il y a certains contrats où ça va valoir 1 et le suivant ça va valoir 100. Donc une augmentation de 5% sur 1, c'est pas.
Alors, c'est pas comme ça que l'entendent les universités parce qu'on gère un budget. Et quand le budget
quand vous gérez un budget, c'est l'enveloppe totale quand même qui est importante. Et où est-ce qu'on peut faire des économies? Et on peut quand même, a priori, commencer par faire des économies sur ceux qui coûtent le plus cher. Hein, et ça, ceux qui coûtent le plus cher, je suis connaissance, en facture finale totale, c'est les grosses entreprises multinationales qui appliquent le
D'accord.
bundle.
Alors le problème,
voilà,
c'est que...
c'est vraiment cela qu'il faut prendre en priorité.
Prendre en priorité dans le collimateur ce qu'on fait. Après, au sein d'une université... Quand des présidents d'université, des conseils scientifiques doivent décider quelles ressources on garde, on va toujours préférer un groupe pluridisciplinaire qui permet de donner un peu à tout le monde, hein, alors que telle société savante qui ne concerne qu'un public beaucoup plus restreint et qui en plus a une augmentation, c'est l'augmentation, le public qui sera mécontent. Donc souvent, c'est ça la réalité aussi. Après, il y a des arbitrages au sein des universités. Si on a une université assez homogène disciplinairement, c'est plus facile. Mais quand on a une université, prendre des arbitrages qui ne sont pas en faveur des sociétés savantes ou des ressources spécifiques.
J'ai une autre question de précision.
Et ce qu'on explique aux sociétés savantes, d'ailleurs.
D'accord. J'ai une autre question de précision sur les chiffres que vous avancez. Vous dites que donc, l'année en cours, maintenant, on a au niveau des grosses... des éditeurs, publishers commerciaux, qui, vous dites que là, tout d'un coup, augmentation, miracle, ça a l'air d'être d'un miracle. Mais c'est simplement parce que, dans le cas, en tout cas, c'est la négociation dont vous allez nous parler, couperin, apparemment, on est passé de 200, en gros, hein, 200 et des poussières, et il se passe que les 400 un peu plus rajoutés, on ne leur a pas demandé leur avis, on leur impose de s'abonner de Elsevier, et résultat, en statistique, ben, au lieu de diviser par 200, maintenant vous divisez par 600, ce qui vous fait une baisse merveilleuse. Comment vous avez calculé
C'est le tarif national, hein, le tarif France, on prend le nombre d'établissements, le tarif France sur le même périmètre, c'est ça qu'on compare.
Qu'est-ce que vous appelez le tarif France? Vraiment, moi, j'y connais rien. Expliquez-nous
ça. Sur le territoire.
Voilà.
Alors, si on a d'une année sur l'autre,
là, vous
des nouveaux...
vraiment l'ensemble. Donc, voilà. En 2011, le tarif France était de tant pour 200 établissements. Maintenant, le tarif France n'a pratiquement pas bougé pour 600 établissements. C'est ça l'état de la négociation.
Je vous en parlerai après. Voilà. Je vous le montre après, ça.
Parce que ça, c'est faut préciser.
Mais par exemple, si je prends... On va regarder aussi à périmètre... Effectivement, si je ne vais pas comparer le tarif France, de la presse sur 10 membres, et le tarif France sur 20, je regarde sur le même périmètre. Hein, c'est ça que je regarde. Voilà. Donc, les négociations ont démarré en mars 2013, et elles ont fait suite, en fait, au groupe de travail, qui est par Jacques ce matin, sur le nouveau modèle tarifaire. Donc ce fameux nouveau modèle tarifaire qui est révolutionnaire en cela que on ne s'abonne plus à un bouquet de revues, à une base de données en streaming. Voilà. Et le protocole d'accord, un protocole d'accord a été signé le 31 janvier 2014 et là le contrat est en cours de signature. Je ne sais plus où on en est exactement, mais enfin si ce n'est pas fait, ça va être fait. Alors cette négociation a été gérée au plus haut niveau. Elle a été pilotée par le comité de pilotage de la BSN, hein, des présidents d'organismes de recherche, président ou directeur, et le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc c'est eux qui suivent. Ensuite, le consortium couperin, de par son expérience en matière de négociation, a été missionné par le comité de pilotage pour négocier. Et aider les négociateurs étaient soutenus par composés de professionnels de l'information scientifique, une sélection d'institutions représentatives de toute taille, de toute nature. De France aussi. Voilà comment l'organisation a été, voilà comment la négociation a été organisée. Donc un comité de pilotage qui fixe les objectifs, instruit par un comité de négociation. On leur dit vous allez négocier pour tel objectif. Porte au comité de négociation et au comité de pilotage à chaque rencontre avec l'éditeur. Alors, quelques points importants. Donc, le précédent contrat nous avait conféré, nous sommes les premiers, je crois que nous sommes les seuls, la propriété des données de tous les types de collections de 2001 à 2013. Donc, nous sommes propriétaires des archives et les archives nous sont livrées. Les données sont livrées à l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur. Elles ont été chargées sur un serveur qui est maintenu par l'INIST CNRS, qui donc a fait un gros travail au cours de l'année 2013 pour que tout soit d'aplomb au 1er janvier 2014. Donc au 1er janvier 2014, grâce au travail de l'INIST CNRS, l'ensemble des archives de 2001 à 2013 était accessible pour tout le monde sur le serveur de l'INIST. Par ailleurs, ça je ne l'ai pas mis là-dessus, nous avions négocié l'achat des archives dans le cadre de notre projet, projet ISTEX, les archives antérieures à 2001 étaient en cours d'acquisition. Donc on était prêt à fournir depuis le volume 1 numéro 1 jusqu'en 2013. Et c'était pour nous très important, donc nous étions que, étant capables de fournir aux chercheurs une continuité des plus récentes jusqu'en 2013, on aurait toute latitude pour pouvoir négocier aussi longtemps que les objectifs qui nous ont été fixés, c'était une diminution du coût, la propriété des données, une licence nationale, donc ça c'est une volonté du comité de pilotage de la BSN, de manière à régler la question des unités mixtes de recherche, ou à ne pas la régler comme on veut, mais de manière à évacuer cette question de double irrigation. Si on a une licence nationale, il n'y a plus de problème d'imbrication des organismes, des institutions. Ça réglait la question. Bon. La licence nationale, on ne l'a pas sortie tout de suite quand même à Elsevier. On a voulu voir quand même si on n'arrivait pas à obtenir quelque chose avant d'en arriver là. Autre objectif, c'était stabiliser à partir de ce modèle base de données, parce que si on accède à une base de données, à des articles, on n'a pas de garantie que le titre phare Lancet, par exemple, qui est accessible en 2014, sera toujours en 2015. Donc une base de données veut dire que peut-être les contenus vont varier et qu'on sera démuni si on nous change le contenu. Donc, aussi rajouter des clauses concernant l'open access et le texte en data mining. Sur l'open access, on savait que ça allait être très 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 difficile puisque tous nos collègues s'étaient cassés les dents avant et qu'on a vu une présentation au Congrès international des consortias en 2013 de la part d'Elsevier où on avait compris qu'il n'y avait rien à dire, rien à négocier là-dedans. Alors finalement, après diverses péripéties, donc je vous donnerai quelques informations plus tard, nous avons un contrat de 5 ans comme tous nos collègues. Nous avons réussi à obtenir la propriété des données. Évidemment, des diminutions de tarifs, ou plutôt des augmentations très 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 raisonnables si on lâchait la propriété des données. Donc ça, on a tenu vraiment, on a dit non, on ne sépare pas l'abonnement et la propriété. On prend un contrat pour l'achat des articles, des titres de la Freedom Collection pendant 5 ans. Donc ça, on a réussi à garder la propriété des informations et gestion des accès gérés par la France. Donc le périmètre a été étendu à 600 institutions, il y en avait 150 dans l'accord précédent, qui se sont rajoutées, ne payent rien. Elles peuvent ne rien payer. Elles n'ont pas d'obligation, en fait, à payer quelque chose, à contribuer à la licence nationale si elles ne le souhaitent pas. Contribuer financièrement. Alors, on a obtenu la pérennité de la collection. Ça a été un long travail au cours des 6 derniers mois. Nous avons déterminé à croire. Alors, quand on a envoyé la liste de 627 titres On a entendu Elsevier tomber sa chaise. Donc 627, ça a été très difficile hein, de les convaincre. Mais nous, on est resté sur ces 627 titres, dont la présence est garantie pendant les 5 ans. Sinon, le coût de la baisse, on enlèvera. La baisse, on enlèvera, on défalquera du coût. Donc, on est revenu sur un bouquet de revues. Chaque revue a un temps, on ne la paye plus. On la paye plus. Alors, la clause pour l'open access, ça semble tout petit, mais c'est un coin, en fait, qu'on a enfoncé dans le dispositif, dans la mesure où, pour Elsevier, dans le coût, les tarifs qu'on paye aux abonnements, hein, la question des articles hybrides, etc., n'a rien à voir. Vous ne payez que les autres, les articles gold, hein, dans le cas des revues hybrides, on peut faire de l'auteur-payeur, ils ne comptent pas dans le coût de la revue, bien sûr. Donc on a quand même négocié pied à pied, et on a expliqué qu'on rentrait dans un contrat de 5 ans, qu'on ne savait pas évoluer l'open access, et que si on avait un engouement très fort pour l'open access, et que donc la proportion des articles inclus dans la Freedom Collection en open access, nous on allait continuer à payer très cher pour des contenus dont beaucoup étaient en fait accessibles en libre accès. Donc on a réussi à obtenir une clause. Donc en 2018, on va évaluer la proportion des articles en open access, qu'ils appellent les articles payants. Et si la proportion des articles souscrits est inférieure selon un certain ratio à l'augmentation des contenus en open access, le tarif sera revu à la baisse. Alors ça a été très 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 compliqué, très nu. Ils ont essayé ensuite de vider complètement par des subtilités de revenus de cette clause. C'est une première parce que c'est... En fait, on a réussi à obtenir d'Elsevier qui se contredisent et qu'ils reconnaissent qu'effectivement, quand on paye un accès à la Freedom Collection, eh bien, l'augmentation de la... Ce qu'ils refusent. Autre point sur lequel on a progressé, peuvent être utiles dans le contrat pour le texte en data mining, notamment, mais pas seulement, puisqu'au départ, ce qui était exigé d'Elsevier, c'était l'exclusivité de l'utilisation de leurs API, de leur plateforme. Donc, notamment, a duré aussi très longtemps. Tarifaire nationale. Donc cette évolution tarifaire ne concerne que les établissements qui payaient déjà un abonnement. Hein. Donc il y a plusieurs groupes d'établissements. Il y a ceux qui faisaient partie du groupement de commandes qui avaient accès à l'ensemble de la Freedom, ceux qui n'avaient accès qu'à certaines parties. Donc ça représente un chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, donc on a réussi à obtenir une diminution du chiffre d'affaires en 2015. Donc ce qui veut dire que les établissements abonnés précédemment, peuvent espérer une diminution de coût. Mais si en plus, 50 établissements nouveaux qui seront desservis, si certains se rendent compte qu'il y a un usage, dans ce cas-là, on leur demandera une tiers qui peut faire encore diminuer le coût pour les abonnés historiques. C'est-à-dire que les nouveaux abonnés, hein, ceux qui ont été inclus dans la licence nationale, on va regarder, ils auront accès gratuitement pendant un temps, et ensuite il y aura un bilan de l'usage qui est fait, soit ils paieront une contribution s'ils souhaitent continuer. Voilà. Donc, mais même sans tenir compte de ces 440, le coût est en diminution. L'important, c'est que le coût est en diminution avec la propriété des données. Ça, c'est un point fondamental. Voilà, deux diapos. Donc les limites, c'est que malgré les assurances que nous avons du comité de pilotage, en fait, on s'est rendu compte que l'ensemble de la CNIL n'était pas prêt du tout donne accès à la Freedom Collection en 2014. Malgré tout le travail qu'on avait fait pour rendre les archives accessibles, une partie de la communauté scientifique a fait pression pour que l'accord soit signé, a expliqué qu'il était hors de question qu'ils se paient et qu'ils aient l'accès, qu'ils avaient besoin dès début 2014, des données 2014. Bon. On subit de fortes pressions pour éviter ces coupures et certaines institutions majeures avaient une augmentation. Donc, alors qu'on n'avait pas fini les négociations, qu'on avait encore des propositions d'augmentation, On avait certains qui nous poussaient à signer. Donc c'est compliqué de négocier. Il faut arriver à trouver une situation qui convienne à une solution qui convienne à tout le monde, qui ne fâche pas tout le monde. Les chargés de la licence ont donné lieu vraiment à des échanges très longs. Je vous donnerai un exemple juste après. Certaines clauses ont été revues mot à mot. Je vous montrerai tout à l'heure la clause sur les robots et celle sur les réseaux sociaux. Le texte de l'art nous ont beaucoup occupé. Et dernière ligne, place d'une licence très différente. Certains privés, tous ne relèvent pas du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est d'une complexité effroyable. Il y a de monde impliqué, plus la communication est difficile. Donc c'est un travail qui est complexe. Alors deux exemples sur cette question de rédaction. Donc comme quoi, c'est pas tout de négocier des conditions tarifaires. Après, il faut être très compte tenu de la licence. Donc je prends qu'un exemple, la licence, la clause 1.4 sur les restrictions d'usage, qui a plusieurs alinéas, j'en prends deux. En noir, c'est la rédaction initiale d'Elsevier. Empêcher d'utiliser des robots d'indexation ou autres programmes de téléchargement automatisé, algorithmes, dispositifs, c'est récupérer, extraire, établir des liens profonds, répertorier ou perturber de façon continue. Bon, on ne pouvait rien faire. Et on s'est dit, ça peut être un frein au développement de nouveaux produits. Donc, on ne peut pas accepter. Donc, c'est la partie. Enfin, d'ailleurs, c'est notre validé en bleu, après plusieurs échanges. C'est utiliser des robots ou des programmes de téléchargement automatisés destinés à extraire l'intégralité de la base. Effectivement, ça, on peut comprendre que ce soit interdit. Ou une partie substantielle, ben ça c'est conforme au code de la propriété intellectuelle, on ne peut pas récupérer une partie substantielle d'une base de données. Donc on a repris cette. On a mis entre parenthèses TDM, parce que si. Ou destiné à perturber le fonctionnement des produits souscrits, évidemment, on ne peut pas autoriser qu'on mette en place des dispositifs qui perturbent le fonctionnement. Deuxième point, on a vu ça, on n'en avait pas parlé du tout, on a trouvé dans la licence qu'il était interdit de poster des éléments individualisés à partir des produits souscrits sur des sites de réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un élément individualisé? Si c'est un article entier, pourquoi pas? Mais en revanche, si ça veut dire qu'il est interdit de un paragraphe, de prendre, pourquoi pas, un graphique, un croquis, ça non. Donc un élément individualisé, on ne sait pas ce que c'est. Donc on a dit, on l'accepte s'il s'agit d'un article entier. Mais en revanche, le chercheur doit pouvoir quand même continuer à prendre un écran pour le poster sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je suis rentrée un peu dans le détail. J'espère que ça vous a intéressé. Je n'ai pas pu rentrer dans le détail pour tout. C'était peut-être, j'ai débordé.
J'ai besoin de temps. Merci.